l'occasion des rencontres du cinéma finlandais organisées par la session Cinépage à Marseille, Radio Grenouille est allé à la rencontre de Markku Lemuskallio, réalisateur au long cours et au parcours atypique, qui l'a amené depuis les années 90 à faire notamment des films sur le peuple nénette, dont sa femme et co-réalisatrice Anastasia Lapsui est issue, établissant ainsi une œuvre inédite et profonde. Markku Lemuskallio, bonjour. Vous étiez au début de votre carrière ouvrier forestier. Qu'est-ce qui vous a amené à passer à la réalisation de films ?
Je ne sais pas.
En fait, ça a commencé par un incendie. La maison où je vivais, il y a eu un incendie et j'ai tout perdu. Tout est brûlé. Et un de mes chefs disait justement en sylviculture, il a dit, mais il savait que j'avais déjà fait de la photo. Pourquoi tu n'achèterais pas une caméra pour faire les films ? Comme je connaissais bien la nature, j'avais travaillé dans la nature, alors je me suis dit il faut mieux que je fasse les films sur quelque chose que je maîtrise bien. Et les premiers films c'était les films éducatifs. Et le premier film que j'ai réalisé, le nom c'était Comment on plante un sapin. Avec ces films éducatifs, en fait, j'ai appris à maîtriser l'instrument. Et après, petit à petit, j'avais envie de parler et exprimer les choses qui étaient peut-être plus près de mon cœur. Mais maintenant, mes films se passent dans les endroits où il n'y a absolument pas de forêt du tout.
Justement, vous avez par la suite réalisé des films portant sur les peuples du Grand Nord, à savoir les Lapons ou les Nénettes, par exemple. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir les filmer ?
Déjà, quand j'étais jeune, j'ai voyagé pas mal dans le nord de la Finlande et chez les Sams. Et ça a commencé à m'intéresser. Et j'ai fait quelques courts-métrages sur les Sams aussi, au début. Et en fait, c'était au début des années 80 que j'ai tourné un long métrage chez les Sams. Et ça a été quelque chose de très important pour moi. Parce que avec ce film, je me suis rendu compte ce que c'était le cinéma, ce que ça pourrait être comme moyen, justement, d'exprimer. Parce qu'à ce moment-là, je me suis rendu compte que si on filme, on photographie le monde de l'extérieur ou les gens d'extérieur, on peut les photographier, les filmer quand ils marchent, quand ils s'assoivent, quand ils existent juste comme ça avec leur entité d'extérieur. Mais en fait, nous ne savons pas ce qui se passe à l'intérieur de ces gens, ce qu'ils pensent.
Silloin oivasin semmoisen asian, että
et à partir de ce moment-là, dans tous mes films, tout ce que j'ai fait, j'ai essayé de montrer ce qui se passe à l'intérieur de la tête d'un homme. Parce que nous vivons avec ça. En fait, c'est ça, le monde réel, ce qui est à l'intérieur de nous. Parce que ce n'est pas du tout ce que nous voyons, mais c'est ce que nous ressentons. Et nous essayons avec Anastasia Lapsui, justement, de faire de sorte que les gens que nous filmons, que ces gens-là acceptent notre façon de les filmer. Nous n'essayons pas du tout de construire, de changer leur vie. En fait, c'est eux qui sont complètement dans notre démarche, naturellement.
Avec Anastasia Lapsuy, vous avez réalisé plusieurs films sur ce peuple à partir des années 90. Pouvez-vous d'abord nous présenter ce peuple et comment s'est passée votre rencontre avec celui-ci ?
Il y a encore aujourd'hui à peu près 35 000 Nénets. Les Nénets habitent en Sibérie, du côté européen de la Sibérie et aussi dans l'ouest de la Sibérie. En fait, je voulais souligner qu'avant d'arriver il y a 20 ans chez le peuple Nénet, j'avais déjà voyagé partout dans le monde arctique. Et partout ailleurs, j'avais rencontré les peuples qui avaient complètement été occidentalisés. Ils n'avaient plus, ils savaient plus leurs traditions. Tout a été détruit. Chez les Nénets, il y a 160 ans, il y avait un Finlandais, un explorateur finlandais, et rien n'avait changé quand je suis arrivée 150 ans plus tard. Leur mode de vie, leurs croyances, si on peut dire religion, et les habillements, tout était pareil.
Dans votre film « Les Sept Champs de la Toundra », on y voit une cohabitation assez difficile entre les Nénets d'un côté et les Soviétiques, qui ressemblent d'ailleurs plus à une sorte de colonisation. Avec le recul, quelle influence, selon vous, les Soviétiques ont-ils eu sur ce peuple ?
En fait, le grand changement s'est produit au début des années 30, quand le régime soviétique s'est installé. Parce que comme ce sont les nomades qui ont des reines, alors les reines sont devenues comme c'était l'État le propriétaire de leurs reines. En fait, le régime soviétique n'a pas détruit la culture Nénets, mais il y a une chose quand même, ils ont voulu faire disparaître toute cette tradition du chamanisme. Parce que même encore aujourd'hui, quand on pense que ça s'est passé au début des années 30, que l'État avait devenu propriétaire de leur reine, même aujourd'hui encore, les gens savent combien de reines ils ont eues à l'époque et quelles reines viennent un peu de leur famille. C'est très important pour eux.
Qui d'entre vous, comme notre grand Lénine, serait capable de voir clairement et de décrire avec justesse l'avenir que nous bâtissons. À 17 ans, Lénine était si vif qu'il était prêt à affronter n'importe quel danger imminent. À quoi pourriez-vous comparer son intelligence infinie ?
De quelle manière s'est déroulée là-bas la chute du communisme ?
Pendant les premières années, en fait, d'abord il y avait comme une espèce de paralysie, tout le monde était comme paralysé, et c'était un chaos, c'était complètement chaotique pendant les premières années. Évidemment, petit à petit, la vie continue, mais surtout les gens qui vivent dans les coins très périphériques, on les a complètement laissés tomber. Parce que l'État ne s'en occupe plus de ces gens-là, et comme tout le régime soviétique, c'était tellement différent, les gens n'avaient pas besoin d'être très actifs pour leur propre vie, mais maintenant, il faudrait le faire, alors c'était difficile comme changement. On verra avec le temps ce qui va leur arriver. Et peut-être le grand changement après ça, c'était quand les skidous ont arrivé. Comment on les appelle les motoneiges. Nous, on les appelle skidous. Parce qu'après, il y a l'argent qui entrait dans leur vie. En fait, avant, il n'y avait pas cette économie d'argent. Les reines, en fait, se nourrissent de la terre et on n'achète rien pour les nourrir, mais les motoneiges, non. Il faut leur mettre de l'essence et ça coûte de l'argent.
C'est
certainement ce qui fait bouger et changer le monde, certainement plus que les idéologies. c'est l'argent. Et si ça fait disparaître les petites cultures, ça veut dire que le monde va devenir de plus en plus pauvre, parce que ce sont justement ceux qui enrichissent. C'est beaucoup plus riche quand il y a beaucoup de cultures différentes.
Doucement, doucement, mon petit enfant. Bientôt, ton père reviendra et t'apportera un jeu. Bientôt, tes frères reviendront et t'apporteront des jouets. Et tu auras, mon joli, une voiture et un fusil.
Est-ce que vos films sont donc un moyen de lutter contre cette possible disparition, ou les percevez-vous comme une trace?
Oui,
on peut penser de cette manière-là, pourquoi pas, même si nous, avec Anastasia Lapsou, nous n'avons peut-être pas pensé ça, mais pourquoi pas. Mais ce que nous voulons montrer, c'est qu'il y a plusieurs façons de vivre, et dans nos films, en l'occurrence, on montre comment ce peuple, les nénettes, vivent leur vie ici sur la Terre. Ce lien qui est très important avec la nature et tout ce qui nous entoure, qui nous donne la vie, qui nous nourrit, il y a les gens qui ont perdu complètement ce lien qui n'existe plus. Mais en fait, le point central de la vie, c'est toujours où on est. Parce que quand on est là-bas, en fait, rien ne nous manque. Tout est là. Tout est dans cette tente nomade, les gens qui sont là, le monde qui nous entoure. Et on a besoin de rien de plus. Et en fait, c'est ça. On a l'essentiel.
Et
le matin, le soleil se lève et on se réveille. On fait ce qu'on a fait en enfer. Normalement, ce sont les travaux qui se ressemblent beaucoup tous les jours. Le soir, le soleil se couche. Alors, on va dormir. Et c'est tout, et c'est la vie. La vie est là.
Cette interview de Markku Lemuskallio a été réalisée dans le cadre des rencontres du cinéma finlandais à Marseille, événement organisé par l'association Cinépage, www.cinépage.com. Les passages que vous avez pu entendre sont extraits du film Les Sept Chants de la Toundra, de Markku Lemuskallio et Anastasia Lapsui. Ce film a été édité en DVD en France et distribué par Blackout.